Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. C'est vendredi, c'est le club des idées du grain. En d'autres temps, une telle querelle se serait réglée à l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, sur le pré, fleuré à la main. Edoui Plenel d'un côté, Riz de l'autre et une foule de témoins venus assister au duel entre le patron de Mediapart et celui de Charlie Hebdo. Les temps ont changé, mais la bagarre en est à peine moins féroce entre ces deux-là. Depuis que Charlie a mis en une Edoui Plenel, se couvrant la moustache puis les yeux pour illustrer l'attitude du directeur de Mediapart dans l'affaire Tariq Ramadan, chacun des deux camps sort l'artillerie lourde. Il est question pêle-mêle et de part et d'autre de nouvelles affiches rouges, d'appels au meurtre, de guerre aux musulmans, de complicité intellectuelle avec le terrorisme islamiste. Un débat totalement hystérisé. Comment les uns et les autres ne mesurent-ils pas qu'ils aggravent le mal qu'ils prétendent soigner, s'interroge l'édito du Monde de ce jour. Alors Charlie Hebdo Mediapart, une caricature de débat. Eh bien c'est le titre un petit peu casse-gueule, je dois dire, que nous avons choisi pour cette discussion. Casse-gueule parce qu'on prend le risque d'être nous-mêmes accusés d'avoir organisé un débat caricatural ce soir. Mais je fais confiance évidemment aux membres du club pour faire preuve de tempérance. Philippe Manière, Brice Couturier, Sylvain Bourmeau, bonsoir à tous les trois.
Bonsoir. Bonsoir.
Philippe Manière, consultant éditorialiste à Challenge. Brice Couturier, le tour du monde des idées à 11h53 sur France Culture du lundi au vendredi. Et un livre aux éditions de l'Observatoire, Macron, un président philosophe. Et Sylvain Bourmeau, producteur de La Suite dans les idées le samedi à 12h45 sur France Culture. Et bientôt patron, enfin déjà patron, mais le média n'est pas encore lancé, d'AOC. Il sera lancé en janvier prochain. Puis nous avons une invitée pour venir discuter avec vous. Il s'agit d'Ariane Chemin. Bonsoir.
Bonsoir.
Ariane Chemin, que les auditeurs France Culture connaissent bien, puisqu'elle co-présentait l'an dernier l'Atelier du Pouvoir avec Vincent Martini. Vous êtes journaliste au Monde et vous avez signé cette semaine un long article intitulé « Entre Charlie et Mediapart, histoire d'une haine ». Alors avec vous quatre, je voudrais qu'on commence peut-être par le commencement et par l'étincelle qui a provoqué cette bagarre entre Charlie Hebdo et Mediapart, même si on verra qu'il y avait déjà un fond de rivalité entre les deux titres. Mais c'est cette une de Charlie Hebdo sur Edoui Plenel, où l'on voit quatre caricatures du patron de Mediapart, dont une où, avec sa moustache, il se cache la bouche, une autre, il se bouche les oreilles, une autre, il se masque les yeux. Et ce titre, Affaire Ramadan, Mediapart révèle, on ne savait pas. Qu'est-ce que vous avez pensé d'abord de cette caricature en une de Charlie Hebdo? Est-ce que vous avez trouvé que c'était dans la lignée de ce que fait Charlie d'habitude ou bien est-ce qu'elle est différente et peut-être problématique? Sylvain Bourmeau.
Oui, je pense qu'elle s'inscrit dans la lignée de ce que fait Charlie. Peut-être la différence avec d'autres, c'est qu'elle met en avant un autre journaliste, une figure du journalisme, de la presse. C'est pas tous les jours que Charlie fait ça. C'est en général d'autres types de personnes publiques. Ça peut leur arriver à l'occasion. Mais sinon, non, elle est caricaturale. Elle est de mauvaise foi, comme souvent la caricature. Elle est par ailleurs problématique dans le sens où elle est injuste ou en tous les cas pour le moins ambiguë puisque il est précisé affaire Ramadan. Et évidemment, comme souvent les caricatures procèdent par addition de deux choses. Et là, c'est deux choses qui concernent Ramadan. C'est-à-dire qu'ils auraient dû mettre peut-être affaire au pluriel Ramadan parce que il est évident que pour Charlie Hebdo, il y a une première affaire Ramadan avant les révélations récentes qui est le statut au fond de Tariq Ramadan du fait d'un certain nombre de ses propos, de ses prises de position et du fait qu'en France on le regarde d'une certaine façon comme ça.
Donc, sauf que vu le contexte, on pense tout de suite au viol dont est accusé
voilà.
Tariq Ramadan.
Et c'est là qu'il y a de la mauvaise foi évidente parce que reprocher à Edoui Plenel de ne pas savoir ce qui a été révélé par ses plaintes récentes. Ça me semble, enfin, je n'ai pas d'informations particulières, mais je pense que Edoui Plenel n'en savait pas plus que tout le monde, y compris ceux qui ont enquêté. Donc, c'est très, voilà, c'est de mauvaise foi. Mais encore une fois, ce genre de mauvaise foi se retrouve assez souvent à la une de Charlie Hebdo, comme d'autres journaux de caricature.
Philippe Manière, vous êtes d'accord avec ça?
Oui, moi j'ai trouvé cette une plutôt moins drôle que la moyenne des unes de Charlie. Je lis Charlie depuis très longtemps. Charlie me fait toujours rire. Par exemple, celle de la semaine précédente avec Tariq Ramadan, sixième pilier de l'islam, avec son érection ostentatoire, elle me paraissait plutôt plus drôle. Donc je la trouve moins drôle que la moyenne. De mauvaise foi, certes. Mais vraiment, pas plus que la moyenne des unes de Charlie. Et je trouve que Charlie fait son boulot comme d'habitude. Alors, qu'il parle d'un confrère ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance. Enfin, moi, je pense que l'argument selon lequel on devrait, je ne dis pas que ce que suggérait Sylvain Bourmont était cela, mais l'argument selon lequel on devrait préserver les confrères je viens de dire que j'avais compris que ce n'était pas ça que vous disiez, Sylvain. Mais on entend ça. On entend, c'est vraiment pas confraternel. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Enfin, franchement, Charlie Hebdo conchit tellement de valeurs, si la confraternité était la seule qu'il ne conchit pas, vraiment, ce serait singulier. Alors, simplement, moi, ce qui me frappe dans cette affaire, dans cette affiche, c'est qu'elle renvoie à ce qu'il y a de troublant dans l'affaire, comme Sylvain le disait à l'instant. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a beaucoup de sujets autour de Tariq Ramadan. Je pense qu'on va principalement parler de ça. Le débat à l'intérieur de la gauche et au sein du pays sur la laïcité et l'islam, qui est un problème fondamental, un débat fondamental. Je trouve gênant, mais après tout, il faut bien que les choses arrivent d'une manière ou d'une autre, je trouve gênant que ce problème soit traité. Non pas seulement sur le mode hystérique qu'on va évoquer, mais qu'il soit traité à l'occasion d'un fait générateur qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que Tariq Ramadan est accusé de viol, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, je ne suis pas policier ni magistrat, mais enfin ça n'a rien à voir avec le fait qu'il dise des choses acceptables ou pas acceptables. Alors c'est pas grave, parce que je pense que c'est bien que ce débat ait lieu, mais c'est un peu troublant de se dire qu'il a fallu attendre qu'il soit accusé de viol pour qu'on évoque la question du caractère admissible ou non de ses propos. C'est ça qui me semble le plus bizarre. Et dans une certaine mesure, cette affiche a le mérite d'expliciter cette curiosité. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du sujet, mais ça permet d'en parler.
Une d'ailleurs de Charlie Hebdo qui aurait bien pu ne pas être à la une. Justement, c'est ce que vous racontez dans votre article pour Le Monde, Ariane Chemin. Alors, à la fois, je vous demande ce que vous avez pensé justement de cette une, mais peut-être aussi nous expliquer finalement comment s'est fait le choix. Il n'y avait pas forcément de volonté délibérée de mettre à tout prix ce dessin en une pour provoquer un débat sur les responsabilités supposées de Mediapart et de son patron dans ses affaires Ramadan, en tout cas.
Il suffit de lire Charlie Hebdo toutes les semaines pour savoir comment il travaille, puisqu'on a droit chaque semaine aux unes auxquelles on a échappé. Donc on voit qu'elle a été choisie parmi d'autres sur des critères qui sont aussi journalistiques. Ils savent très bien, c'est ce qu'ils m'ont expliqué, qu'une figure marche mieux qu'un dessin plus général.
En l'occurrence, c'est plutôt un argument commercial que journalistique, pardon.
C'est un argument commercial. Ils avaient fait beaucoup de Macron, ils en ont le ras-le-bol de Macron. C'est un dessin qui met mal à l'aise, comme tous les dessins de Charlie Hebdo, mais c'est un assez beau dessin. Il est plus fin, on peut dire, que le dessin de la semaine précédente dont vous parliez.
C'est pas difficile, oui.
Il est assez bien fait. Et en même temps, il est évidemment gênant à cause de... forcément, on se dit, en le voyant, tout le monde s'est dit... Ouais, ils sont quand même un peu gonflés, bon, c'est pas la même chose, on mélange tout, etc. Mais le problème, c'est que c'est une caricature et on a trop tendance à éditorialiser les caricatures. C'est-à-dire, on essaie de leur faire dire plein de trucs alors que c'est toujours de mauvaise foi, à vrai dire.
Est-ce qu'en voyant cette caricature, Brice Couturier, on se dit, et vous vous êtes dit, Edoui Plenel savait des choses par rapport aux faits qui sont reprochés aujourd'hui à Tariq Ramadan dans le cas d'accusation de viol et il ne les aurait pas dit. Est-ce que c'est à ça qu'on peut penser?
C'est le message, hein, puisque la une, vous n'avez pas dit le commentaire qui l'accompagne, c'est affaire Tariq Ramadan, Mediapart, on ne savait rien.
Alors je l'ai dit,
on ne savait rien. Donc effectivement, Mediapart s'est fait la réputation, c'est conquis la réputation dans notre milieu journalistique. De révéler des affaires qui avaient été cachées. Or, là, bon, comme on sait, Edoui Plenel s'est affiché à plusieurs reprises dans toutes sortes de lieux et d'endroits avec Tariq Ramadan, a dit qu'il voulait faire une maison commune avec lui, enfin il y a eu toutes sortes de déclarations de rapprochement et aujourd'hui on s'aperçoit que Tariq Ramadan est un tartuffe, que derrière ses proclamations vertueuses, il y a le comportement d'un homme qui est un des prédateurs sexuels, comme on en découvre de plus en plus ces jours derniers dans toutes sortes de milieux suite à l'affaire Weinstein. Et effectivement c'est très compromettant pour ceux qui sont affichés avec lui, dont Edoui Plenel fait partie.
Donc, est-ce qu'il y a une ambiguïté, en tout cas, dans cette
attendez, quand le pape est montré en train de se faire sodomiser sur la couverture de Charlie Hebdo,
il n'y a pas
d'ambiguïté, ça ne me dérange pas. Donc, je ne vois pas pourquoi Edoui Plenel est le pape de quoi exactement, pour qu'il monte aussitôt, grimpe aussitôt au rideau et dise qu'il y a atteinte à la personne, à sa dignité, etc. Écoutez, Edoui Plenel n'est pas le pape, et de toute façon, si on a le droit de se moquer le pape, ce que je trouve absolument normal dans un pays de liberté d'expression, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas se moquer d'Edoui Plenel. Ce qui est scandaleux, c'est la réaction d'Edoui Plenel. Alors, restaurant avec l'affiche rouge. Alors juste, ça, voilà. C'est vraiment ignoble.
Il y a deux temps, effectivement, dans la réaction d'Edoui Plenel. D'abord sur Twitter, où il évoque l'affiche rouge de Charlie contre Mediapart, qui fait évidemment référence à cette affiche placardée sous Vichy contre
ce qu'on appelle
l'armée du crime. Et puis, il y a le lendemain, il est interrogé par Antoine Marette de la rédaction de France Culture, cette réaction donc au micro d'Edoui Plenel qu'on écoute.
La une de Charlie Hebdo fait partie d'une campagne plus générale que l'actuelle direction de Charlie Hebdo épouse, hein, Monsieur Valls, et d'autres, parmi lesquels tous ceux qui suivent M. Valls, une gauche égarée, une gauche qui ne sait plus où elle est, alliée à une droite, voire une extrême droite identitaire, trouve n'importe quel prétexte, n'importe quelle calomnie pour en revenir à leur obsession, la guerre aux musulmans, la diabolisation de tout ce qui concerne l'islam et les musulmans.
Est-ce que Charlie Hebdo est devenu islamophobe, selon vous ?
Je ne donne aucun jugement. Je n'ai pas besoin d'adjectifs, tout le monde l'entend. Tout le monde l'entend. Je ne rentrerai pas dans cette course à l'échalote de la haine. Je pense que les musulmans de notre pays sont comme vous et moi. Ils sont sensibles aux droits des femmes, ils sont sensibles aux libertés, ils sont sensibles au respect de la personne humaine.
Est-ce que Charlie Hebdo stigmatise les musulmans ?
Je ne lis pas Charlie Hebdo, donc à chacun de se faire son jugement en lisant Charlie Hebdo.
Voilà l'interview d'Edoui Plenel par Antoine Marette, telle qu'elle a été diffusée à l'antenne. Je le précise parce qu'ensuite, on a retrouvé cette interview sur le site notamment de France Info avec un titre un peu plus raccourci, on va dire. Je lis. Hein. Pour Edoui Plenel, la une de Charlie Hebdo sur Mediapart est une guerre aux musulmans menée par une gauche égarée. Alors d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette réaction ? Est-ce que là aussi, on est dans l'ambiguïté ou bien est-ce que ça va au-delà de l'ambiguïté ? Comment est-ce qu'il faut comprendre cette déclaration d'Edoui Plenel ?
Elle est disproportionnée. Je ne suis pas d'accord pour dire que Edoui Plenel savait que Tariq Ramadan avait une vie dissolue et était coupable de viol. C'est absolument faux. Personne ne savait. Même la spécialiste de Tariq Ramadan, Caroline Forest, qui a écrit le premier livre à charge sur Tariq Ramadan, Madame ne l'a pas écrit. On va pas non plus. Il faut
elle
pas
dit
tout...
qu'elle l'a pas écrit parce que les elle victimes pas... n'avaient pas de.
Mais évidemment. Pas donné leur consentement. Excusez-moi, mais
c'est normal.
Mais ce qui
Bien
est
sûr,
normal.
C'est normal.
Non, mais on peut pas. Attendez, le journaliste, c'est quand même écrire sur des faits. On va pas commencer à raconter la vie privée
Bien sûr,
des gens.
Bien sûr, mais ce n'est pas parce qu'elle
plainte.
Savait pas. C'est parce
non,
mais, qu'elle ne pouvait pas
mais,
le faire. Dit-elle.
Mais heureusement qu'on ne raconte pas. C'est le tout transparent. Vous savez bien que c'est totalitaire. Donc on ne va pas écrire quand on ne sait pas. Donc il faut pas tout mélanger non plus. Quand vous disiez que Tariq Ramadan, on découvrait qui il était. Ça fait quand même longtemps que beaucoup ont écrit sur eux, sur lui. Le Monde, on a fait une grande enquête il y a un an et demi où on racontait très exactement qui était Tariq Ramadan. Je cite Caroline Forest et même Mediapart. Il faut bien dire qu'ils avaient fait une enquête qui était quand même sérieuse. Je veux dire, on ne parlait sans doute pas des viols parce qu'ils ne savaient pas, mais c'était quand même une enquête sérieuse. Donc on ne découvre pas aujourd'hui Tariq Ramadan.
Et donc cette réponse de Plenel, alors
elle est exagérée. C'est-à-dire, la fiche rouge, il ne faut pas tout mélanger. Hein. C'est quand même le groupe Manichéen qui a été fusillé sous le régime de Vichy. Donc là, on voit bien qu'il veut politiser et en fait, il met une pièce dans la machine et il lance une série d'invectives d'une violence rare et totalement inadmissible des deux côtés, de son côté comme celui de Manuel Valls.
Sylvain Bourbon.
Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Ariane Chemin, avec laquelle je suis complètement d'accord. L'article publié par Mediapart sur Tariq Ramadan faisait partie d'un certain nombre d'enquêtes qui ont été publiées dans la presse, qui était c'était un très, très belle enquête signée Mathieu Magnodex. J'en profite pour dire que, contrairement à ce que voudrait nous faire croire la une de Charlie Hebdo, Mediapart et Edoui Plenel, c'est pas la même chose. Mediapart, c'est un collectif de journalistes, d'ailleurs un collectif qui est à l'origine d'une déclaration de la Société des journalistes de Mediapart qui a pesé ses mots et qui a fait paraître un communiqué public. Donc je pense que c'est très important de distinguer les deux. Je cite Mathieu Magnodex parce que son papier
sur Ramadan... Il faut distinguer les deux, mais ça n'a pas non plus rien à voir l'un avec l'autre.
Le papier est assez sévère. Hein.
C'est quand même lui qui porte la ligne éditoriale de Mediapart, de Plenel.
Il aime travailler en groupe, donc lui, il aimerait que ce soit la même chose. Oui, peut-être que la rédaction ne le souhaite pas de cette manière.
Mais la rédaction, elle est variée, elle est pluraliste, elle est faite de journalistes très compétents.
Vous avez été d'ailleurs un contributeur de Mediapart.
Voilà, je peux vous l'assurer, il y a une dimension collective extrêmement importante. Donc je voulais en profiter pour séparer les deux. La réaction d'Edoui Plenel, c'est du Edoui Plenel typique d'aller parler de la fiche rouge, de monter en généralité historique. Ça ne me surprend hélas pas.
Est-ce que ça vous choque?
Je trouve ça assez ridicule, en fait. Assez ridicule, un peu ringard. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être encombré par des références historiques en permanence pour essayer d'analyser et de comprendre l'actualité face à laquelle on se trouve.
L'histoire, c'est choquant, bien sûr.
L'histoire, c'est intéressant. L'histoire avec un grand H, c'est intéressant pour comprendre l'actualité. Mais il faut arrêter de tout rabattre. Et surtout, quand on entend se donner une place dans l'histoire. Parce que, au fond, cette réaction-là, c'est exactement la même qui a fait qu'Edoui Plenel a choisi d'appeler le livre qu'il a écrit Pour les musulmans. Il l'a appelé Pour les musulmans en écho à un texte célèbre Pour les juifs.
Et donc, de Zola.
De Zola. Évidemment, la position en miroir, l'idée de se penser comme le Zola de notre temps, n'est pas étranger dans sa posture. Et c'est cette posture qui est un peu ridicule parfois et qui a été très ridicule avec ce parallèle avec l'affaire Manoukian. C'est dommage parce que ça peut affaiblir des raisonnements qui sont souvent intellectuellement un petit peu plus riches que ces images-là.
Il y a le parallèle avec l'affaire Manoukian, mais ce ne sont pas ces propos-là que relève Rice dans son édito de cette semaine de Charlie Hebdo. C'est bien les propos qu'on vient d'entendre, qu'il reformule quand même un petit peu dans son édito. Il parle de cette phrase.
Il prend une phrase. Il dit, gênante pour Plenel, mais c'est une phrase que Plenel, on vient de l'entendre, a prononcée. Effectivement.
Il ne l'a pas prononcée comme ça, Brice Couturier. On vient de l'entendre justement. On pourra réécouter si vous voulez. La une de Charlie Hebdo fait partie d'une campagne général de guerre aux musulmans. Ça n'est pas comme ça que Edoui Plenel a parlé. Il a rassemblé, disons, il a enlevé certains mots de cette phrase. Et en tout cas, Rice en tire une conclusion. Il parle d'un appel au meurtre. Est-ce que vous partagez, vous, ce point de vue? Est-ce que vous considérez que les propos d'Edoui Plenel sont équivalents à un appel au meurtre?
Il faut quand même comprendre qu'on est dans un certain contexte, n'est-ce pas? On est dans un contexte dans lequel 300 de nos compatriotes ont été tués en 2 ans, et en particulier 15 personnes à Charlie Hebdo en janvier 2015. Donc, c'est pas n'importe comment, ça tombe pas du ciel. Et quand on dit, effectivement, comme Plenel le dit, cette phrase, la une de Charlie Hebdo fait partie d'une campagne générale de guerre aux musulmans, et Rice ajoute, nous ne la pardonnerons jamais.
Sauf qu'il ne le dit pas comme ça, on va la réciter, mais il faut dire aussi les choses de manière précise.
Car en la prononçant, Plenel condamne à mort, je cite Rice, une deuxième fois Charlie Hebdo, cette phrase n'est plus une opinion, c'est un appel au meurtre. Cette phrase qui désigne Charlie Hebdo comme un agresseur supposé des musulmans, adoube ceux qui, demain, voudront finir le boulot des frères Kouachi. Donc, effectivement, il y a la polémique à laquelle on voudrait nous renvoyer entre deux gauches, on va en parler, j'espère, tout à l'heure, une gauche laïque et une gauche identitaire. Mais il y a autre chose. Il y a le fait que des hommes et des femmes sont morts parce qu'ils avaient caricaturé, parce qu'ils avaient, soi-disant, insulté une religion et dont certains adeptes de l'islamisme ne supportent pas la moindre critique. Et ils sont morts pour ça. Donc, quand on emploie ce type de langage comme Plenel le fait, on doit mesurer les conséquences de ces propos. C'est des propos qui ne tombent pas du ciel et qui ne sont pas innocents. On est dans quelque chose de beaucoup plus grave que simplement la rivalité qui peut exister entre deux rédactions. On est devant le sang versé.
Est-ce qu'on peut dire, alors, du coup, Philippe Manière, je vais reformuler un petit peu ma question, mais que, étant donné ce qui s'est passé le 7 janvier 2015 à Charlie Hebdo, les propos d'Edoui Plenel sont, disons, à minima peut-être irresponsables.
Oui, évidemment. Moi, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour le travail qu'a fait Edoui Plenel. Je suis pas d'accord avec tout, mais qu'a fait Edoui Plenel et que fait Mediapart. C'est un service public que rend Mediapart en dénonçant certains scandales qui, sans Mediapart, ne sortiraient pas. Je suis loin d'être d'accord avec toutes leurs analyses, mais je trouve que Mediapart est un média qui a une vraie utilité et qu'à ce titre, on ne peut pas critiquer Mediapart et Plenel comme s'il n'y avait que le débat qu'on est en train d'évoquer ce soir. Cependant, ce qui s'est passé à Charlie Hebdo est quelque chose dont on ne dira jamais assez l'importance cardinale. Que dans un pays libre, quelqu'un vienne tuer 16 journalistes au motif que le journal écrivait des choses qui heurtaient la sensibilité de quiconque, c'est un événement extraordinaire. Heureusement d'ailleurs qu'il est extraordinaire au sens étymologique, mais je veux dire, on ne peut plus parler de ce sujet-là après Charlie comme on pouvait en parler avant. Et donc, moi, je me rallie complètement à ce que disait Laurent Bouvet dans Le Figaro sur le sujet. Et encore une fois, je redis à quel point je pense que Mediapart est un média de qualité et utile, malgré ses excès à mes yeux, mais je me rallie à ce que disait Laurent Bouvet, ces propos d'Edoui Plenel ressortissent à l'indécence et à l'ignominie. Ce sont des propos qu'il n'aurait pas dû tenir. C'est impossible de dire ça après Charlie, quoi qu'on pense sur les sujets qu'on est en train d'aborder. Et je pense même que c'est une forme d'erreur. C'est à mon avis une faute intellectuelle et morale, mais je pense aussi que c'est une erreur, j'allais dire marketing. C'est-à-dire que je ne vois pas bien le bénéfice qu'il retire de cette posture effectivement indécente et qui est ressortie à l'ignominie.
Dans votre article Ariane Chemin, vous écrivez « Il y a quelques années, les querelles idéologiques que se livrent la bande d'anards de l'hebdomadaire, donc Charlie Hebdo, et les fidèles d'Éloi Plenel seraient restés confinés aux franges de la gauche et n'auraient sans doute pas connu un tel écho, sauf qu'il s'est passé, ce qui s'est passé le 7 janvier 2015. »
Il s'est parlé Charlie et Charlie appartient désormais au patrimoine de tous les Français. C'est-à-dire que ce n'est pas une rédaction comme les autres. D'ailleurs, il y avait peu de lecteurs au moment où il est arrivé ce drame. Malheureusement, Charlie était en train de péricliter. Mais aujourd'hui, c'est différent. C'est quelque chose, c'est un symbole. Ça parle à tout le monde. Moi, ce qui me frappe, c'est que évidemment ressurgit cette guerre, on va en parler entre deux gauches, mais justement, on avait fait une enquête il y a un an et demi dans Le Monde, entre eux, on l'avait appelé d'ailleurs la gauche Mediapart contre la gauche Valls. Et on racontait qu'au fond, le débat aujourd'hui, c'était un débat qui divisait la gauche et qui tiraillait de gauche, c'était un débat sur la laïcité. Mais c'était pas du tout les mêmes mots. Ce qui me frappe, c'est qu'en un an et demi, ça a pris de la vigueur. On est tombé dans un espèce de système alimenté évidemment par les réseaux sociaux où il y a des déferlements de haine atroces. Où, parce que la phrase de Manuel Valls, quand même, rendre gorge.
On l'a pas cité, voilà, sur BFM TV.
Rendre gorge, je vais leur faire rendre gorge, dit-il, en parlant dans l'équipe de Mediapart.
Tout à fait, il précise ce qui veut dire les faire perdre. Il ne s'agit pas de leur faire rendre gorge.
Bien sûr, mais le problème, c'est que dans ce contexte, malheureusement, rendre gorge, ça sonne très mauvais. On voit l'image.
Sylvain Bourmeau.
Il y a une chose encore plus grave dans les propos de Manuel Valls, que l'expression rendre gorge, c'est qu'il veut les bouter hors de l'espace public. C'est-à-dire que la Mediapart n'aurait plus droit de citer dans l'espace public, ce qui est en contradiction totale avec ce que vient de dire Philippe Manière, avec lequel je suis en accord. Mediapart fait un travail très important, plus ou moins important selon les articles, mais très important. Et qu'on ne peut pas résumer à ces prises de position là. Alors, maintenant, je voudrais que, comment dire, qu'on essaye de venir à ce qu'on pointe depuis tout à l'heure, Hervé, sur ce débat entre les deux gauches, parce que je crois que ça procède à bien des égards de la caricature aussi. C'est-à-dire que, autant je suis d'accord avec l'expression telle qu'elle est utilisée dans l'éditorial du Monde ce soir, de guerre de religion, parce que je crois qu'on est vraiment face à une guerre de religion, heureusement à petite échelle et avec des mots et du papier imprimé et des pixels, mais quand même, quelque chose d'assez effrayant, je trouve, dans ce qui s'est passé cette semaine. Mais je ne crois pas que ce soit une guerre de religion entre, d'un côté, les gens qui défendraient les religions et de l'autre, ceux qui seraient les défenseurs de la religion laïque, comme c'est présenté. Je crois plutôt, et ça pose une vraie question, c'est comme ça que je le ressens à mes yeux, qui me vit comme profondément athée et laïque, c'est que je crois qu'on a affaire à deux camps religieux, en fait. On a affaire à d'un côté, une figure assez classique dans l'histoire de la laïcité française depuis la séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire que la laïcité en France, on se gargarise, on est content de l'avoir, on est fier, mais c'est une idée extraordinaire, une des idées les plus fortes que je connaisse en politique, mais on n'a jamais réussi à la mettre totalement en œuvre. Ça reste un horizon. D'ailleurs, il y a encore le Concordat, il y a encore des tas de choses. Et ça a été, et c'est depuis le début, une catho-laïcité, une laïcité dans laquelle la religion catholique a une place un peu à part. Bon, c'est devenu une catho-judéo-laïcité, parce que, de la même façon, Emmanuel Valls incarne ça, une laïcité dans laquelle, finalement, ça y est, la religion catholique a une place, le judaïsme a une place, et puis l'islam, troisième monothéisme, c'est un peu plus compliqué avec la laïcité. Voilà, ça, c'est une position qui a longtemps été celle de la droite, on l'a vu au moment du débat sur l'école en 84, etc., et qui s'est ouvert à une partie de la gauche en s'ouvrant aussi au côté judéo de cette laïcité. Et puis en face, il y a ce qu'on a appelé la laïcité ouverte. C'est-à-dire l'idée, et moi je pense qu'on détruit l'idée même de laïcité dès lors qu'on met un adjectif à côté, c'est ce que Vincent Peillon avait essayé de dire lors de la campagne de la primaire de gauche, je suis entièrement d'accord avec lui. La laïcité, c'est la laïcité, point barre. Elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas ouverte, elle n'est pas tout ce qu'on veut. Elle est la laïcité. La laïcité nouvelle ou ouverte, ce serait l'idée que défendait Bobéro, dont Éloi Plenel a préfacé un de ses livres, et qui est, d'une certaine façon, voilà, quelqu'un de, avec une forme, enfin, protestant, etc. Donc, on dit de Tariq Ramadan qu'il est théologien. Moi, je sais pas s'il est théologien. C'est un homme religieux.
Il est plutôt prédicateur.
Voilà, il est plutôt prédicateur que théologien, n'empêche. Bon, alors, voilà, je crois qu'il y a, du côté de, par exemple, de quelqu'un comme Edoui Plenel, finalement, l'idée qu'il faudrait trouver des accommodements raisonnables, comme on dit au Canada, avec les religions. Donc, on sort de la laïcité et on défend les religions. Et d'ailleurs, son livre s'appelle Pour les musulmans, ce que je trouve problématique, c'est-à-dire que, en fait, c'est un livre contre l'islamophobie qu'on doit écrire. C'est un livre qui vraiment, au nom de la laïcité, interdit toute forme de discrimination en raison des croyances. C'est pas parce que pour les musulmans, c'est très grave. Ça veut dire qu'il faudrait être pour ou contre les musulmans. Ça laisse ouverte l'idée, la porte. On pourrait emprunter la porte d'être contre les musulmans. Enfin, c'est inimaginable.
C'est ce qu'il veut laisser entendre.
C'est une mauvaise façon de poser le débat.
Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, Sylvain Bourmeau. Je voudrais que les trois autres aient l'occasion, justement, de réagir et aussi de donner leur conception de ce que révèle, justement, ce débat aujourd'hui. Brice Couturier.
Écoutez, moi, je pense qu'il faut remercier Ramadan, parce que grâce à lui, on fait sortir du bois un débat qui mine la gauche depuis déjà des années. Ce débat est connu. Manuel Valls avait dit, non sans raison, et on voit à quel point c'était prophétique, que ces deux gauches étaient irréconciliables. Et effectivement, elles le sont sur ce point précis. Caroline Fourest a été probablement la première à pointer du doigt l'origine de ces deux idéologies qui divisent la gauche. C'était dans un livre paru il y a une douzaine d'années qui s'appelait « La tentation obscurantiste ». Elle disait aujourd'hui, face à l'islamisme, il y a deux gauches en réalité. Il y en a une qui est issue des droits de l'homme, du droit de l'homisme, qui est universaliste, qui est républicaine et qui est laïque. Il y en a une autre qui est issue du tiers-mondisme, prône en réalité les identités culturelles et d'une certaine manière tend à enfermer les individus dans ces identités culturelles au nom de l'authenticité culturelle dont ils sont porteurs. Elle ne le disait pas, mais je le rajoute, il y a deux dérives possibles à ces deux gauches. La gauche, du côté de la gauche universaliste, il y a la dérive néoconservatrice qu'on a observée chez certains d'entre nous, qui vise à promouvoir les droits de l'homme dans le monde entier, y compris à la faveur des baïonnettes. Il y a une autre dérive possible qui est celle des tiers-mondistes, c'est l'islamo-gauchisme. La politique des identités...
Qu'est-ce que c'est l'islamo-gauchisme ?
Alors, l'islamo-gauchisme, c'est Edoui Plenel. Par exemple, et c'est des 130, alors ça aussi c'est inouï, des 130 personnes qui ont signé en sa faveur, alors qu'il y a eu 130 victimes juste deux
non,
ans
pas,
avant.
Écoutez pas, non, pas ça, oui, pas ça.
Bon, d'accord,
vous ne pouvez pas dire une chose comme ça. Non, okay, vous n'avez pas le droit d'être complotiste sur l'antenne de France Culture, il ne faut pas exagérer non plus.
Enfin, c'est un hasard très malencontreux, reconnaissez-le, très malencontreux.
Mais enfin, pas du tout.
Personnellement, je n'avais pas compté le nombre de signataires.
Ils avaient écrit plus de 130, parce qu'il y en avait 136, et voilà, et comme le tweet c'est rapide, il a mis 130, mais soyons pas complotistes. Non, mais pas un intellectuel ne peut pas être complotiste, c'est pas possible.
Mais je pense pas qu'ils l'ont fait exprès, évidemment, c'est pas ce que j'ai dit.
C'est ce que vous dites.
Je dis que c'est un hasard malencontreux, très malencontreux, et qu'on fait pas ça. On vérifie avant d'afficher des chiffres sur les réseaux sociaux. On réfléchit sur le nombre des morts qui sont morts ce jour-là, exactement ce jour-là, deux ans avant. Donc, effectivement, et là, on voit bien que, par exemple, la focalisation de ce milieu islamo-gauchiste sur Manuel Valls, qui a été comparé à Marcel Déa sur Mediapart, c'est un scandale national. Je veux dire, ça montre qu'effectivement, cette gauche islamo-gauchiste ne supporte pas la laïcité. Tout le thème antisioniste qui draine une bonne partie d'antisémitisme derrière elle, regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur la page de Tariq Ramadan, les attaques qui sont faites contre Manuel Valls sont des attaques proprement antisémites, qui sont passibles des tribunaux dans ce pays, qui devraient l'être en tous les cas, et qui ne le sont pas. Ça pose un grave problème. Donc la complaisance d'une certaine gauche tiers-mondiste d'origine, qui est devenue une gauche identitaire et islamo-gauchiste qui tolère des dérives antisémites, c'est une dérive absolument condamnable et qui est inimaginable. Croyez-moi, ces deux gauches sont irréconciliables, mais moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est à quel point la droite dans ce pays assiste à ce débat fondamental au sein de la gauche sans y participer, le moins du monde. Ça m'épate.
Ariane Chemin.
Excusez-moi, enfin, moi, je trouve que vous mélangez un peu tout. Vous dites d'abord droit de l'homme et droit de l'homisme. C'est pas du tout pareil. Droit de l'homisme, c'est l'expression de Jean-Marie Le Pen pour parler des gens qui se réclament des droits de l'homme. C'est quand même pas du tout pareil. Moi, je pense qu'on est
Kouchner en train de... l'emploi, comme moi,
je
d'ailleurs.
Je pense qu'on est en train de tout mélanger, vraiment complètement. C'est-à-dire, on mélange tout. Tariq Ramadan, les viols, sa pensée, c'est quand même pas du tout pareil. Et la vérité, c'est qu'il y a deux gauches. C'est un problème de réalisme. Il y a un problème dans les banlieues françaises. Et c'est un problème de terrain aussi. C'est-à-dire que vous avez des élus terrain qui disent non pas je suis laïque et moi je suis pas laïque, mais est-ce qu'il faut pas être un petit peu plus réaliste qu'on l'a été dans les années 80, dans les années 90? On voit bien que ça va pas. Le retour effectivement de l'antisémitisme, ça on peut pas le nier. On a publié une enquête récemment dans Le Monde. Et évidemment, tout ça c'est récent, etc. Et on est en train de tout mélanger.
Ça veut dire quoi être réaliste en la matière, Ariane Chemin?
Non, mais je pense que les gens ont fait de ce problème un débat en chambre d'intellectuels qui ne mettent jamais les pieds sur le terrain. C'est quand même ça. C'est ça qui est très français au fond, plus que autre chose. Et ce qui me frappe aussi, c'est que la parole de Manuel Valls, comme celle d'autres, elle témoigne aussi de la délicatesse des partis politiques. Avant, il y a même 10 ans, il y aurait eu un PS, une UMP structurée, et il y aurait eu une parole beaucoup plus raisonnable. Mais là, ce sont tous des électrons libres parce qu'il n'y a plus de parti. Et tout le monde dit n'importe quoi.
Philippe Manière.
Non, je ne sais pas s'il y a deux gauches qui s'opposent. Je vois, en tout cas moi, s'opposer deux tentations de la gauche, deux atavismes de gauche qui sont devenus irréconciliables pour la raison très simple que l'islam en France est une question aujourd'hui très complexe. À raison de ce que vient d'évoquer Ariane Chemin, c'est les difficultés d'intégration de certains de nos compatriotes, principalement d'origine musulmane, dans les banlieues, et à raison, bien sûr, du terrorisme, non pas musulman, mais islamiste, qui, évidemment, a un lien avec l'islam, puisqu'il se revendique de l'islam. Ces deux idées sont les suivantes. La première, c'est celle qui a donné naissance à la laïcité en France et qui est unique au monde, dans aucun autre pays. Il y a cette foi chevillée au corps des républicains que l'avenir est l'abolition et la disparition des religions, qui sont des reliques d'un temps ancien. En France, une très grande partie des intellectuels et la quasi-totalité des intellectuels de gauche considèrent que être croyant, c'est n'être pas encore complètement averti de la réalité du monde, c'est être un peu en retard sur son temps et voit l'avenir comme ouvert à un monde où les religions auraient été abolies grâce au progrès et grâce au savoir. C'est une particularité française très forte qu'on ne trouve nulle part ailleurs, peut-être en Wallonie, souvent c'est la même chose là-bas qu'ici, mais nulle part au monde. On peut tout à fait être croyant progressiste de gauche dans la plupart des autres pays qui ont un degré comparable de développement au nôtre. Ça, c'est la première idée. Et donc, l'idée de faire rendre gorge, pour le coup, aux religions, a profondément marqué la gauche, qui, dans ce qu'elle est actuellement, est très fortement héritière des combats anticatholiques et qui ont abouti à la séparation de l'Église et de l'État, et que, même en tant que catholique, je comprends très bien. C'est-à-dire qu'il était absolument nécessaire de séparer l'Église et l'État. Maintenant, ensuite, il y a eu cette espèce de dérive. Toute religion est mauvaise. Le progrès est ontologiquement hostile aux religions. Ils ne sont pas compatibles. Ça, c'est une vision française qui a profondément marqué la gauche. Et puis, il y a l'autre vision de la gauche, c'est que les opprimés, elle est bien légitime, évidemment, les opprimés méritent qu'on les défende. Or, les musulmans sont les opprimés d'aujourd'hui, donc il faut défendre les musulmans périndés à cadavère, si je puis me permettre d'utiliser cette expression catholique dans un débat sur l'islam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, à gauche, la moindre place dans l'esprit de beaucoup de gens pour qu'on puisse imaginer que des musulmans aient tort et ou ne méritent pas d'être défendus parce qu'ils sont des opprimés. C'est ce que décrit très bien Birnbaum. Hein, c'est un silence religieux. C'est-à-dire, vraiment, la gauche est très marquée par, un, il faut lutter contre les religions, deux, les musulmans sont des gens qu'il faut défendre parce que ce sont en quelque sorte les nouveaux prolétaires.
Et ces deux idées, c'est le livre d'Edwin Plenel, ça.
Oui, mais les deux idées, voilà, exactement. Et les deux idées ne sont pas facilement compatibles, pour dire le moins. Et dans l'espace public hystérisé où nous sommes, pour des raisons parfaitement compréhensibles, depuis les massacres de Charlie Hebdo au Bataclan, évidemment, elles sont devenues pratiquement incompatibles. Mais je ne crois pas qu'il y ait deux gauches qui plaident l'un des deux thèmes et l'autre. Je pense que dans la tête de une grande partie des gens de gauche, ces deux thèmes sont là et ne sont pas. On constate qu'ils ne sont pas compatibles. Ça rend un peu schizophrène, ça rend malheureuse la gauche en quelque sorte.
Et évidemment qu'il faut défendre les musulmans, mais il faut défendre les musulmans, c'est pas la même chose que pour les musulmans. Ça ne laisse pas entendre l'idée qu'il faudrait structurer le débat comme une guerre de religion pour ou contre les musulmans. Et je crois que moi, on assiste en fait à un face-à-face entre deux manière de dévoyer l'idée de la laïcité. D'un côté, on la dévoie parce qu'elle n'est pas pleinement réalisée. Et je voudrais dire ici que Manuel Valls, dont on lit partout qu'il serait un laïcard, etc., il s'est précipité au Vatican pour la canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II, ce qui a valu un très bon papier d'Henri Pénard-Ruiz à l'époque dans Libération, qui rappelait à Manuel Valls ce que c'était que la laïcité. Et en tant qu'enfant de républicain espagnol, à quel point c'était précieux qu'elle existe dans le pays. pays d'accueil. Et donc, si vous voulez, Manuel Valls en saint laïque, en super laïque, moi, j'y crois pas deux secondes. Donc, c'est plutôt cette catho-laïcité qu'il a épousée. Et en face, on dévoie autrement la laïcité. Mais si, alors...
Catho-laïcité épousée par Manuel Valls, c'est un peu insensé.
Mais non,
c'est
pas ce
parce
sont
qu'il
des
est allé
faits.
Au Vatican.
Ben, il était absolument pas obligé d'y aller comme Premier ministre.
Mais je dis pas qu'il a bien fait. Enfin, on peut pas parler de catho-laïcité au seul motif qu'une personne est allée une fois ou deux au Vatican.
Henri Pénard,
je ne dis pas qu'il aurait dû faire, c'est une autre question. Pour le coup, c'est la guerre de religion que vous êtes en train d'installer.
Non,
si vous dites que l'islam s'oppose au catholicisme et que si on est trop proche des catholiques, alors, etc., ça n'a pas de sens. On est tout près des gens qui soupçonnent Manuel Valls de prendre les positions qu'il a à raison de la religion de certains de ses proches. C'est pas raisonnable.
Mais non, justement.
Écoutons les gens, jugeons-les sur ce qu'ils disent, pas sur ce qu'ils font, sur leurs proches.
J'ai pris cet exemple à dessein pour montrer que la question de Manuel Valls et des religions n'a rien à voir avec sa relation avec le judaïsme, puisque je prenais un exemple dans le catholicisme, précisément pour couper l'herbe sous le pied de tous ces propos odieux qui concernent Manuel Valls. On est bien d'accord là-dessus, c'est pas la question. Simplement, ce que disait Pénarruis de très juste, c'est que le 11 novembre 1918, Clémenceau, l'idole de Manuel Valls, a refusé d'aller au Tédéum à Notre-Dame en l'honneur des victimes de la Grande Guerre. Au nom de la séparation de l'Église et de l'État.
Qui était toute fraîche. Donc,
la guerre aussi était toute fraîche. Hein,
oui,
bon, et donc là, ça nous fait penser à une autre chose, parce que vous l'avez compris, moi, les religions et moi, c'est pas trop, ça marche pas trop ensemble. En revanche, ça veut pas dire qu'il y a pas du sacré. Et le sacré en ce moment, c'est quoi? C'est évidemment ce qui s'est passé à Charlie. Et c'est là que ça devient très compliqué. Et comme le disait très justement Fabrice Arfi, cité par Ariane Chemin dans son article du Monde, qu'est-ce que vous voulez avoir un débat avec des gens qui se sont pris des rafales? Et donc, ça, je crois qu'il faut, en être absolument conscient. Quoi qu'on pense les uns les autres, il y a quelque chose de sacré que, visiblement, Edoui Plenel, et non pas Mediapart, n'a pas compris.
La discussion passe évidemment très vite ce soir. Dernière question, Ariane Chemin et Brice Couturier. Pourquoi ce débat-là, il n'apparaît pas aujourd'hui à droite et seulement à gauche? Est-ce que ça veut dire qu'il y a peut-être une approche plus clair, plus stabilisé, disons, de ce qu'est la laïcité, je sais pas, Brice Couturier.
En un mot, plus empirique, parce que la droite voit les électeurs, elle. Donc elle achète les électeurs là où ils sont. Hein, c'est un marché politique et il n'y a pas beaucoup d'idées, comme on sait en ce moment à droite. Par contre, il y a des calculs électoralistes.
À gauche.
Bien sûr. D'accord. Enfin, je veux dire, effectivement, moi, je déplore beaucoup que ce débat n'ait pas lieu à droite. C'est très étonnant, d'ailleurs. Le silence de la droite sur ce sujet de la laïcité en ce moment est assourdissant.
Comment est-ce que vous l'expliquez, vous, ce silence, Ariane Chemin ?
Il y a peut-être aussi, je reprends ce que vous disiez, la gauche, elle est très malheureuse aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elle a toujours voulu défendre les plus démunis, les opprimés, et ils sont plutôt en France, effectivement, des gens qui viennent de l'immigration musulmane. C'est vrai,
c'est un fait.
Donc tout d'un coup, elle est perdue, parce que c'est exactement ce qui s'est passé, par exemple. Je trouve que ça a été pour moi une césure. Je me souviens quand le NPA, qui est le parti successeur de la LCR, un petit parti trotskiste, tout d'un coup, s'est déchiré parce qu'il y avait une de ses candidates qui était voilée. Voilà. C'était ça le début de ce déchirement. Tout d'un coup, que ce qu'on fait ? C'était notre famille, et puis tout d'un coup, on n'est pas d'accord entre nous, non pas sur des grandes idées de laïcité avec des L majuscules, mais sur une question toute pratique qui est une candidate voilée, que ce qu'on fait ? Et depuis, la gauche se déchire.
Philippe Manière ?
Non, je ne vois pas bien quoi ajouter, si ce n'est reprendre ce que disait à l'instant Brice sur le silence de la droite. C'est un sujet qui est très embarrassant, très embarrassant. Alors, soit vous êtes militant et vous l'embrassez pour pousser votre cause. Soit vous êtes réaliste et vous vous dites, si on me pose pas la question, vaut mieux pas que je réponde. Parce que quoi que vous disiez, vous vous aliénez une partie du corps électoral. Donc ces gens-là vivent quand même du fait qu'ils sont élus. Je pense que malheureusement, même si c'est pas brillant, il est sage de ne rien dire sur le sujet si on n'y est pas obligé d'un point de vue politique.
Et il serait sage peut-être aujourd'hui de calmer un petit peu les choses entre Mediapart et Charlie Hebdo.
Je vais peut-être finir sur ce petit désaccord avec Le Monde, pardon, devant Ariane Chemin. Moi, je trouve que l'idée de dire faut pas s'énerver, parlons tranquillement, etc. Il y a quand même des gens qui ont raison, des gens qui ont tort. Alors chacun a son opinion sur le sujet.
Je pense pas que c'est un débat anecdotique. Au contraire,
je pense qu'il y a une forme de, je vais pas dire lâcheté, mais il y a une forme de retrait volontaire que je trouve pas totalement honorable dans la posture du Monde. Il y a des gens qui disent des choses justes et il y en a qui disent des choses qui ne sont pas justes.
Et c'est un débat très très riche et très intéressant, comme le débat sur le voile en 2004 qui était de la même nature, et dire que c'est un débat sans intérêt est idiot.
Bon, ben, j'espère qu'on aura montré en tout cas ce soir que ce débat, à la fois, ben, on n'en doutait pas, est intéressant et qu'on peut aussi justement discuter de ces questions sans être dans l'invective, comme on a quand même pu le voir ces derniers jours autour de ce sujet. Merci en tout cas à tous les quatre d'y avoir participé. Ariane Chemin, donc je renvoie à votre article signé dans Le Monde, c'était il y a quoi, trois jours, voilà, sur les causes peut-être profondes de cette guéguerre entre, ou cette guerre, je ne sais pas comment il faut l'appeler, entre Mediapart et Charlie Hebdo. Merci à Sylvain Bourmeau qu'on retrouve demain 12h45 avec qui ?
Sandra Legier, Albert Augien et Chloé Corman.
Pour la suite dans les idées, Brice Couturier, c'est dans le Tour du Monde des idées, c'est lundi à 11h53 et Philippe Manière qu'on retrouve bientôt dans le club. Il vient de s'installer. Il va me laisser juste le temps de dire merci à toute l'équipe du Grand, n'est-ce pas, Arnaud Laporte ?
Bah évidemment, comme tous les soirs, avec Gardette.
Antoine Ulster, Fanny Richet, Virginie Leduvaux, Antoine Tricot et Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son Pascal Bénard et Jean-Louis Deloncle. Arnaud, c'est à vous.
Vous avez donné votre programme pour demain midi ou j'ai raté quelque chose ?
Je ne l'ai pas encore donné.
Ah, politique, midi, France Culture.
Voilà, la pensée Macron à l'épreuve du pouvoir, en compagnie non pas de Brice Couturier, mais de l'historien François Doss.